Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va encore revenir sur ce concept de monstre. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de la création d'un monstre, autrement dit, la République démocratique du Congo. Je suis moi-même issu de ce pays et je suis écrivain. Mais il y a une raison spécifique qui fait que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire juste après le génocide du Rwanda. Pourquoi ? Parce que bon, pendant ce génocide, moi qui suis du Congo, du pays juste à côté, j'ai entendu parler de Nilotique, j'ai entendu parler de Bantou. Or, au Rwanda, les gens, quand on a parlé de guerre ethnique, alors que le Rwanda était une entité pas avec deux tribus, mais plutôt deux castes. Pas deux ethnies, mais deux castes. Il y avait les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis, ils ont une tradition d'élevage. Les Hutus, ils ont une tradition d'agriculteur. Et quand un Hutu arrivait à un certain nombre, s'il possédait un certain nombre de vaches, il devenait Tutsi. Donc ça dit que c'était un système, c'était une nation, c'était une entité à part entière, où ce système des Hutus et des Tutsis se côtoyaient, mais c'était pour réguler la société. Il y avait un roi qui était Tutsi. Il y avait un roi qui était là et on régulait la société de cette façon-là. Mais avec l'arrivée de la colonisation, les choses ont changé. Ils ont figé ça en deux tribus, les Belges, c'est la colonisation belge. On a figé ça en deux tribus, les Hutus d'un côté et les Tutsis de l'autre. Alors qu'en fait, on a parlé aussi de Nilotique et de Bantou. Et c'est ça qui a déclenché l'écriture, en fait. Quand on m'a parlé de Nilotique et de Bantou, Nilotique, c'est des gens qui viennent du Nil, comme on dit. Bantou, c'est une ethnie, soi-disant. Alors que quand vous regardez en Afrique, quand vous allez en Afrique, depuis l'Afrique australe jusqu'à l'Afrique centrale, que ce soit les Zoulous, que ce soit les Congolais, que ce soit Rwanda, que ce soit l'Est ou l'Est de l'Afrique, ou l'Afrique centrale, on trouve tout le monde, le terme être humain veut dire Bantou. On dit Bantou pour dire être humain. Autrement dit, quand l'Européen est arrivé en Afrique, il a demandé, surtout cet espace-là, il a demandé aux gens, qui es-tu ? Je suis un être humain. Qui es-tu ? Je suis un être humain. Tout le monde a dit qu'ils étaient des êtres humains, et on a conclu que non, que c'était des Bantous, que c'était une ethnie, alors qu'en fait, c'est être humain. Autrement dit, pour les Européens, c'était inconcevable, eux qui pensaient en termes de Belges, de Français, d'Italiens, de Suédois, des nations, comme on dit. De voir des gens qui s'appellent êtres humains sur une surface qui est la moitié de l'Afrique, ou les trois quarts de l'Afrique, pour eux, c'était un peu déroutant. C'était complètement inconcevable. Mais le terme de Bantou ramène à quoi ? Ramène à l'être. Cela ramène à l'être humain. Et ça ramène aussi à l'être humain, ça ramène à l'autre aussi. Ça dit, nous sommes tous semblables. Mais pour essayer d'étendre ce concept de nation, on a nommé ces territoires, on a donné le nom de Cameroun, qui est, je crois que ça veut dire la rivière aux crevettes, quelque chose dans le genre. On a donné le nom de Congo, on a enlevé le K, on a mis un C. Le Congo à l'époque, c'était un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Ça comprenait une partie de la RDC d'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, Angola, et la capitale se trouvait, le Royaume Congo, la capitale du Royaume Congo se trouvait en Angola. Ça s'appelait Mbanza Congo ou ville de Bakongo. Malgré cela, la notion d'être humain perdure toujours au Congo. C'est-à-dire que nous avons 250 langues au Congo. Nous avons à peu près 250 langues, mais 250 langues, c'est difficile. Sur 2,5 millions de kilomètres carrés, pour se comprendre, c'est un peu difficile. Alors, on a créé ce qu'on appelle les langues véhiculaires au Congo. Il y a le Lingala et le Swahili. Le Lingala se parle au nord et à l'ouest du Congo et déborde même les frontières du Congo. Elle déborde les frontières du Congo, on parle le Lingala à Brazzaville, on parle le Lingala en Angola. Donc, l'ancien territoire du Congo, même jusqu'au Gabon. Et le Swahili se parle à l'est et au sud du Congo. Et le Swahili, on le parle au Kenya, on le parle en Zambie, on le parle en Tanzanie, Rwanda, Burundi, pratiquement jusqu'au Zimbabwe, même en Afrique du Sud, on nous comprend. Donc voilà, ça réunissait les gens, et quelque part, ça annihilait le terme de nation avec les frontières. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ce Congo ? Ce Congo qui a été donc fabriqué à ce moment-là. J'ai un roman qui s'appelle « Congo INC », « Congo Incorporated, le testament de Bismarck », ça c'est mon dernier roman. Parce que j'ai appelé ce roman « Congo Incorporated », pourquoi ? Parce que ça traduit la nouvelle donne concernant ce pays, ça traduit les nouveaux paramètres. « Congo INC », pour moi c'est un label comme Nike, comme Coca-Cola. Est-ce qu'il s'agit du Congo ? Mais bon, moi je le vois comme ça. Et pourquoi ? Parce que pour moi le Congo n'est que la première réserve mondiale des matières premières. Au Congo, on trouve toutes les matières premières que vous pouvez imaginer, l'aluminium, le cobalt, le tungstène, l'or, sans compter l'or, le diamant, le pétrole, et toutes ces choses-là. Donc on avait choisi le Congo pour être la première réserve mondiale des matières premières. Enfin, on avait choisi, le Congo s'est choisi. Et puis le sous-titre, c'est le testament de Bismarck. Le testament de Bismarck, on va se demander qu'est-ce que Bismarck a à voir avec le Congo. Et ce qu'il a à voir avec le Congo, c'est dans l'exergue du roman. Quand vous ouvrez la page de garde, vous trouvez comme exergue, le Congo est destiné à être l'exécutant principal de l'œuvre que nous comptons accomplir. Et ça, c'est Bismarck qui déclare ça à la conférence de Berlin en février 1885. Et la conférence de Berlin, c'était quoi ? C'était une petite réunion, c'était un espèce de G20, pas plus. C'était pas une grande conférence comme même ici où nous sommes nombreux, non. Là, ils étaient une vingtaine autour d'une table. Pas plus. Et il ne s'agissait pas de se partager l'Afrique comme on a pu le croire, mais plutôt de savoir ce qu'on allait faire de cette Afrique. Et il y avait deux territoires qui étaient visés à la conférence de Berlin, c'était le bassin du Congo, d'abord, et ensuite le bassin du Niger. Et on remarquera qu'aujourd'hui, dans cette ère de la mondialisation, au Congo, il y a une guerre, Mali et Niger, il y a des problèmes avec l'uranium, donc il y a des groupes armés maintenant là-bas, il y a des djihadistes, il y a des choses comme ça. Au Congo, il y a d'autres choses, mais voilà, mais c'est des pays actuellement qui sont en plein conflit. Mais alors, quand Bismarck dit, voilà, le Congo est destiné à être l'exécutant principal de l'œuvre que nous comptons accomplir, de quelle œuvre s'agit-il ? Moi, j'ai appelé Congo et Congo, INC, Congo Incorporated, c'est un espèce d'algorithme. Cet algorithme, il va servir chaque fois que le monde a besoin d'accomplir un grand travail. Quand le monde a besoin de se sortir d'une situation, quand le monde a besoin d'avancer, quand le monde a besoin de développer quelque chose, on met toujours en place le concept de Congo, ce concept que j'appelle Congo Incorporated. Pour accomplir cette œuvre, il a fallu quoi ? Il a fallu d'abord qu'on délimite ce Congo et qu'on en fasse une zone de libre-échange. Dès le départ, ça a commencé comme ça, c'était une zone de libre-échange. Et malgré que le concept de nation est arrivé, le Congo est toujours, jusqu'à aujourd'hui, une zone de libre-échange. Ce n'est pas un État souverain comme on rencontre. La souveraineté n'est seulement due qu'aux peuples qui vivent à l'intérieur de cet espace. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un passé traumatique qui a fait que ces peuples sont restés liés et soudés à cause de leur passé traumatique. Évidemment, le traumatisme, ça crée des liens. C'est tout. Et on parle les mêmes langues. Et puis 1885, c'est quoi ? 1885, c'est pas anodin, c'est pas une période, c'est pas une période anodine du tout. 1885, c'est le début de l'ère industrielle, et c'est là que le Congo entre en jeu. À cette époque-là, le Congo renfermait tout le caoutchouc du monde. C'est-à-dire, il y avait le caoutchouc du Congo, il y avait un peu de caoutchouc à Manaus, au Brésil. Le caoutchouc, c'est quoi au départ ? Au départ, ce sont des lianes qui sont attachées aux arbres et ce sont des lianes. Ça, c'est le caoutchouc sauvage. C'est ce qu'on a utilisé au début de cette ère industrielle. Mais imaginez seulement l'ère industrielle sans le caoutchouc. Il n'y a pas d'ère industrielle. Il n'y a rien. Donc, le caoutchouc, il fallait le chercher dans les arbres. Il fallait le chercher dans les arbres, aller saigner la liane, parce que le Belge qui contrôlait le Congo à l'époque, les gens de Léopold II, les soldats de Léopold II, ne permettaient pas qu'on coupe les lianes pour les saigner au sol. Il fallait monter dans les arbres. Dans la forêt équatoriale, monter dans les arbres, la forêt équatoriale, c'est une zone hyper hostile. On ne peut pas monter là-haut, on peut pas, il n'y a personne qui va passer son temps dans les arbres, à moins qu'on paye un pont d'or. Et c'est là que voilà, toutes les règles, comme les règles qu'on trouve aujourd'hui, elles ont été appliquées au Congo dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne va pas On ne va pas payer les gens très, très, très bien pour qu'ils puissent monter, qu'ils puissent travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une armée. Et on a créé la force publique. On a créé la force publique. Et c'est la force publique qui faisait le travail que les gens, normalement, n'auraient pas pu faire. La force publique, l'armée, poussait les gens à travailler. Mais ils poussaient comment? C'est là qu'on a eu les premiers grandes tueries. Et c'est là qu'on a vu toutes ces photos de mains coupées. Parce que les mains coupées, c'est une stratégie commerciale. Les mains coupées, ce n'était pas par pure cruauté. On a l'impression que oui, les Belges étaient cruels, ils ont coupé les mains des Congolais. Non, 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 non. C'est-à-dire que le soldat qui. Au début, les soldats, quand ils allaient en opération, on partait en opération pour récolter le caoutchouc. Mais déjà, ils avaient commencé avec le chantage pour nourrir les troupes. Donc, je vous parle bien d'opérations commerciales. Je ne vous parle pas de cruauté. Je vous parle pas. Moi, je ne suis pas là-dedans. Hein? Je vous parle d'opérations commerciales. C'est-à-dire qu'il fallait rentabiliser. On parle de rentabilité ici. Les soldats, quand ils partaient en opération, il fallait d'abord produire le caoutchouc. Comme le caoutchouc était difficile à produire, il fallait bien obliger les gens à produire. À comment on faisait? On va d'abord tuer tous les gens qui se trouvent du côté de. À 1 km ici, on va tuer tout le monde. Comme ça, gratuitement, on va les tuer. Comme ça, quand on arrive ici, on dira, regardez ce qui est arrivé là-bas, vous avez intérêt à travailler. Et pour faire travailler les gens, on tuait ici et là-bas, on travaillait. Donc la mort, donner la mort, mutiler, massacrer, ça faisait partie d'une stratégie commerciale. Comme on voit aujourd'hui en Irak et à gauche à droite. C'est comme ça. Et donc, et les mains, c'était quoi? C'est-à-dire que les soldats partent en opération, ils partent pendant 2 jours, 3 jours. Ils reviennent, ça fait 6 jours. Donc ça dit, pendant 6 jours qu'ils sont en opération, il fallait qu'ils mangent. Alors qu'est-ce qui se passait? Ils partaient en opération, mais de temps en temps, ils avaient besoin de manger. Donc on tirait un singe ou n'importe quoi, quelque chose de quoi manger. L'officier belge a dit, non, non, pas question, il n'y a pas question de dépenser des balles comme ça pour manger. Ce que vous allez faire, c'est que maintenant, on veut un justificatif pour chaque balle. Et le justificatif, c'était quoi? Vous tuez quelqu'un, vous prenez sa main, vous le ramenez au chef. Quand vous avez 12 balles, vous ramenez 12 mains. C'est aussi simple que ça, c'était juste un reçu. Un espèce de justificatif pour dire voilà. Ça, c'est la façon dont on faisait le commerce au Congo. Et bon, donc il a fallu. Et puis il y a eu le chantage aussi. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une façon pour nourrir les soldats, c'était d'enlever la femme du type. On prend la femme, on l'emmène, et vous allez chercher. C'était, je crois, c'était une histoire de 5 kilos de caoutchouc. Mais le caoutchouc, c'est quelque chose qui c'est un liquide qui coule goutte à goutte. Donc pour avoir 5 kilos, c'était tout un problème. Donc alors qu'on prenait la femme du type. Le travailleur allait récolter le caoutchouc. Quand il revenait, il devait revenir avec le caoutchouc et une chèvre. La chèvre servait à nourrir les troupes. Et alors, on lui rendait sa femme. Donc, ça a commencé de façon très, très sévère, si on veut. Et puis, donc, l'œuvre de Bismarck commence avec l'ère industrielle. L'œuvre que Bismarck évoque commence avec l'ère industrielle. Mais pourquoi est-ce que c'était Bismarck qui avait parlé à l'époque? C'était pas. Il y avait le représentant de Léopold II dans cette conférence de Berlin, mais c'est pas lui qui s'exprime. C'est Bismarck. Pourquoi est-ce que Bismarck parle du Congo? Tout simplement parce que Bismarck, c'était le boss de l'Europe à l'époque. C'était lui qui était le grand patron. Donc c'est lui qui parle. Et c'est pas les Belges. Et c'est pour ça que moi je me dis que les Belges n'étaient qu'un métayer du Congo. Le Belge était un métayer, Mobutu Kata est arrivé, c'était un métayer. Le Congo n'a toujours servi que jusqu'à aujourd'hui, ne sert que réservoir des matières premières et un point d'entrée. Et alors l'œuvre, après l'ère industrielle qui a déjà commencé, que se passe-t-il dans le monde? Il y a la guerre 14-18. Il faut savoir que les Allemands avaient développé le caoutchouc synthétique dès 1914. Pas les autres. Les autres utilisaient le caoutchouc naturel. Mais imaginez seulement la guerre qui se fait sans le caoutchouc. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le caoutchouc naturel du Congo, tout le monde aurait fait la guerre à cheval, comme les Polonais en 1939, et les Allemands auraient fait la guerre en bagnole. Et le monde aurait. Ça aurait été complètement différent, les choses auraient changé. Et il fallait attendre que les VA soient plantés. Et pourquoi est-ce qu'on a été tellement dur au Congo? C'est parce qu'il fallait planter les VA. Les VA, c'est le caoutchouc domestique, si on veut. On le plante. Le caoutchouc naturel, il est naturel, mais celui-là, on le plante. Donc on a commencé à planter du caoutchouc à gauche à droite, en Indonésie, en Malaisie, au Brésil, à gauche à droite. Mais il faut 6 ou 7 ans pour qu'un EVA arrive à maturité et qu'il puisse produire du caoutchouc. Et donc Léopold II a seulement voulu profiter de son avance, essayer d'avoir une longueur d'avance. Il avait une longueur d'avance sur tous les autres, donc c'est pour ça qu'il a été très 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 dur dans l'exploitation de ce caoutchouc. Et on avait besoin, mais ce n'était pas seulement les Belges qui consommaient le caoutchouc, c'était le monde entier qui consommait le caoutchouc. Donc autrement dit, déjà, Léopold II et le Congo étaient déjà dans une certaine mondialisation. Ensuite, il fallait créer de... Et tout ça, ça faisait partie, ce sont des règles de production, en fait. Hein ? Ce sont des règles de production, c'est pas... Voilà, il fallait mettre en place quelques règles, comme ça, pour que les choses se passent, pour que le monde continue à avancer. Après 14-18, les choses... Après, qu'est-ce qu'il y a eu en 14-18 ? Là, j'arrive toujours à l'algorithme Congo INC, Congo Incorporated, qu'il faut faire fonctionner. On arrive maintenant à la guerre 40-45. La guerre 40-45 s'arrête où ? Elle s'arrête au moment où on jette les deux bombes sur Hiroshima, le moment où on désintègre Hiroshima et Nagasaki. L'uranium en question vient des mines de Chincolombwe, au Katanga. Et cet uranium n'a pas seulement servi à désintégrer Hiroshima et Nagasaki, ça a surtout mis en œuvre la théorie de la dissuasion nucléaire, ce qui a garanti la paix en Europe, en Occident jusqu'à nos jours. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on peut parler de la période de la guerre froide. Il y a eu la période de la guerre froide entre les deux superpuissances. Et là, le Congo intervient toujours. Il est intervenu dans la livraison du cuivre, par exemple. Il y a toujours eu des images qui m'ont toujours frappé de quand j'étais petit. Pendant la guerre du Vietnam, c'était ces hélicoptères qui sont en train de survoler le ciel, et alors une mitrailleuse qui tire, et on voit des gerbes comme ça de cuivre qui sortent par les portes. Et ce cuivre venait du Congo. À l'époque, le Congo était très riche. Le Congo fonctionnait super bien. Et les hommes de Mobutu, à l'époque, eux, étaient sur tous les théâtres d'opération en Afrique. Parce que la guerre froide, elle était froide où ? Elle était froide en Occident. Mais en Amérique du Sud, il y avait les guerres de libération. En Asie, il y avait le sud-est asiatique qui flambait. En Afrique, il ne faut même pas en parler, il y avait la lutte contre l'apartheid, il y avait toutes ces choses-là. Donc la guerre froide était froide pour ici. Mais elle était chaude ailleurs. Et là, en Afrique, c'était encore les soldats congolais qui... C'était les Congolais encore qui se sont battus. Pourquoi ? Parce que Mobutu, à l'époque, on lui avait donné le rôle de gendarme de l'Afrique. Aujourd'hui, ce rôle est tenu par Kagame et Museveni. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner quand on voit l'armée rwandaise qui fait des choses comme ça. Il ne faut pas croire, je suis congolais, je vois le Rwanda à côté de moi, on était des frères avant. Aujourd'hui, il y a une armée rwandaise qui tue des gens au Congo, mais c'est le rôle que Mobutu avait avant. C'est ce que je rappelle souvent aux Congolais, à mes frères. Ah, vous dites, vous critiquez Kagame, mais nous, notre président Mobutu a fait la même chose avant. D'ailleurs, on a été se battre là-bas contre le FPR en 90, à la bataille de Byumba. Donc ça dit, le Congo servait à faire les basses besognes quelque part. Et là, l'algorithme continue à fonctionner, mais là, il ne fonctionne plus avec les matières premières, mais avec les êtres humains. Et au moment où la guerre froide se termine, donc on se dit que voilà, le Congo, il va encore servir à quoi ? Et puis là, les choses ont changé. Ça n'a plus été les hommes, ça n'a plus été la guerre, ça n'a plus été la livraison de certaines matières premières. Il y a la globalisation, les hautes technologies qui apparaissent. Et là, le Congo, de nouveau, est mis à contribution. Elle est mise à contribution avec le coltan, le colombo-tantalite, avec la cassitérite. Le colombo-tantalite, on revient un peu au temps du caoutchouc. Parce que le colombo-tantalite, on ne le trouve qu'au Congo. 90% du colombo-tantalite dans le monde se trouve au Congo. Et donc, il faut fournir le monde. Le colombo-tantalite, c'est quoi ? C'est un matériau qui emmagasine pas mal d'énergie. Avec un tout petit morceau comme ça, vous emmagasinez beaucoup d'énergie. C'est pour ça que nos GSM sont hyper plats, ils sont petits, ils sont jolis. Parce que voilà, il y a le coltan qui est dedans. S'il n'y avait pas le coltan, nos GSM seraient comme les téléphones portables des années 70. Là. Ce seraient des gros trucs comme ça, comme une brique. Mais voilà, mais il y a le colombo-tantalite et on l'utilise pour les téléphones, donc la haute technologie. On l'utilise pour l'exploitation pétrolière. On l'utilise pour fabriquer des armes sophistiquées. On l'utilise pour le LED, les lampes LED qui pullulent partout, sur nos voitures, ça c'est le coltan. J'étais chez moi, il y avait une ampoule LED qui fonctionnait pas bien, je sais pas, il y avait un truc, je sais, je l'enlève de son socket, et la lampe LED continuait toujours à fonctionner, même quand elle n'était pas... J'ai regardé ça, j'ai dit, pauvre Congo. Et voilà, mais alors il y a une exploitation spécifique de ce... Et là, on revient encore au temps de Léopold II, où pour exploiter ce coltan, évidemment, il y a la guerre. Alors on se demande pourquoi il y a des guerres à gauche à droite dans ce monde actuellement, mais c'est parce que c'est le moyen le plus efficace pour faire la guerre. Quand vous ne faites pas la guerre, vous devez faire quoi? Vous devez d'abord demander une autorisation. Si vous êtes une société, vous devez demander une autorisation au gouvernement. Hein, vous devez demander une autorisation au gouvernement pour commencer, avant d'installer votre centre de production. Vous devez construire des infrastructures, ce qui coûte cher. On fabrique des infrastructures et il faut payer des taxes, il faut payer de la main-d'œuvre. Ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans un temps d'économie. On est dans un temps d'économie, on essaye de rentabiliser un maximum. Donc tout ça est difficile, donc la guerre est beaucoup plus efficace. Il n'y a pas toutes ces dépenses-là. Tout ce qu'il faut, c'est une kalachnikov, un peu de munitions à un mec, et le mec, il se sert sur la bête et il vide les territoires. Parce que la guerre du Congo, elle a déjà fait 6 millions de morts, avec un demi-million de femmes qui ont été violées, pas seulement violées, mais on les mutile. Après le viol, on la mutile au revolver, on lui tire entre les jambes, hein, au revolver ou au fusil ou au poignard, parce que ça ne tue pas. La plupart du temps, ça ne tue pas. La femme reste vivante, mais elle est mutilée, elle sera incontinente toute sa vie. Et voilà, ça, c'est les dégâts. Mais ça aide à vider les territoires. Les gens, en fin de compte, ils finissent par partir, parce que bon, le viol, c'est quand même... C'est le viol, c'est quand même... Donc ça, les gens finissent par quitter les territoires, et alors on prend possession des territoires. Et il faut garder quelques êtres humains pour les faire travailler, parce que là, on pratique carrément l'esclavage. C'est ce qui se pratique dans le Kivu là-bas, le territoire du coltan et de la cassitérite. Donc... Mais au regard de tout ça, enfin moi, chez moi, c'est très bref, mon intervention. Et au regard de tout ça, on voit que le Congo n'a jamais changé. Sa façon de faire de l'économie, ça a toujours été la même façon, depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais... On voit aussi que... On nomme pas des présidents, mais plutôt des chefs de exécutif, comment on dit ça? Comme un conseil d'un, on met quelqu'un, un PDG, si on veut. C'est pas vraiment des présidents. Il y a eu Mobutu. Il est arrivé par un coup d'État. Après Mobutu, il y a eu le vieux Kabila qui s'est fait tuer très très vite parce qu'il voulait pas obéir à ses règles. Et puis après, on a le jeune Kabila qui est sorti comme ça de rien. Il est arrivé, tout dans les journaux, partout. Au Congo, on sait que tiens, on nous a trouvé un nouveau président. Mais un président, normalement, ça pratique l'élection, ça débat, on prend le pouvoir, ça se prend. C'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose qu'il faut le mériter, ou le prendre, ou ne fût-ce que le mériter. Et avec Kabila, non. Du jour au lendemain, on a vu un président débarquer, on nous a dit, voilà votre nouveau président. Hein, quand son père a été tué, on a dit, tiens, on va mettre le fils. Mais voilà, le pouvoir, normalement, on l'offre pas comme ça. Ça veut dire que ce gars, il est là pour travailler, il est juste... Il dirige un conseil d'administration, et c'est tout. Et il doit rendre des comptes à ses actionnaires. Ses actionnaires, ceux qui lui ont donné ce pouvoir-là. Et donc voilà, ça c'était la situation du Congo, ça c'est la création d'un monstre. Pour moi c'est facile, c'est pour ça que je suis assez bref, parce que justement, voilà, la situation est telle qu'elle, et c'est l'exemple type de l'État monstre. Et alors qu'en est-il aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Demain, on aura une conférence avec Brigitte Koester. Et là, on va parler de la réinvention du futur. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, c'est réinventer le futur. On peut venir demain, mais bon, voilà, les artistes... Jusqu'à présent, il n'y a que les artistes, parce que je ne vois pas beaucoup. Je vois que les artistes font un travail d'essayer de comprendre, d'essayer de voir les chercheurs aussi, sur le Congo beaucoup moins. On ne parle pas trop du Congo. Cette guerre dont je vous parle, on l'évoque à peine. De temps en temps, un petit entrefilé dans le journal, mais pas plus. Mais bon, les artistes, on n'en parle. Les plasticiens, les écrivains, il n'y en a pas trop. Et disons, moi, je l'ai pris comme thème. Et voilà. Et tout ce qui nous reste peut-être, c'est réinventer le futur. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé quelque part au bout de l'histoire. On est arrivé au bout de principes qui ne tiennent plus. Ce 21e siècle, il y a des principes qui sont là qui ne tiennent plus. L'économie ne tient plus. La philosophie ne tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. Donc je crois qu'il est peut-être temps de trouver d'autres solutions. Essayer de réfléchir tous ensemble. Parce que l'histoire du Congo n'est pas une histoire propre au Congo. Comme je disais, le caoutchouc, le monde entier l'utilise, le coltan, le monde entier l'utilise. Et quelque part, après, on se rend compte que l'histoire du monde ne serait même pas la même s'il n'y avait pas le Congo. Parce qu'elle est intervenue à chaque moment de l'histoire du monde. Donc ça dit qu'il est temps maintenant peut-être de repenser à d'autres schémas de pensée, à une autre façon de faire l'économie. Comme disait Suzanne là tout à l'heure, il y a des nouvelles solutions, il y a des nouvelles voies, il y a des nouveaux chemins qui sont en train de se tracer. Et bon, demain, nous allons parler de la réinvention du futur. Et donc voilà. Et merci à vous. Merci de votre écoute.